Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 8 avril 2026, il est 21h33. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'ai cru qu'il y avait un problème de clé de streaming, parce que ça n'avait pas l'air de se lancer. C'est peut-être un petit bug simplement. Ce soir, donc cette semaine, il n'y aura pas de bulletin géopolitique, priorité au direct, comme on dit. Donc j'ai décidé de faire cette émission pour parler de l'actualité qui écrase tout. C'est ce qui se passe en Iran. Et franchement, c'est un gros foutoir, hein, il faut bien dire ce qui est. tout ceci n'a aucun sens. Alors c'était marrant parce que je disais tout à l'heure sur Telegram, je suis allé me coucher hier soir, juste après avoir vu sur LCI, parce que j'ai regardé LCI avant d'aller me coucher, hein, pour voir quelles étaient les dernières infos. J'avais pas l'intention de rester debout jusqu'à 2h du matin. Comme je l'avais dit, les annonces de Trump, les outrances de Trump ne permettaient pas d'appréhender quoi que ce soit. J'ai trouvé très exagéré c'était pas totalement improbable, on pouvait imaginer que des frappes soient lancées, mais je trouvais exagéré l'espèce de compte à rebours avant l'apocalypse qu'ils en ont fait toute la journée. Et le problème, c'est qu'on va comment dire, d'hystérie en hystérie comme ça, chaque hystérie nourrissant la suivante, étant donné que dès qu'il y a un changement de pied, tout d'un coup ça bouge, les gens sont hyper excités. Et ce que je me suis dit en voyant l'info hier soir, c'est deux choses. Un, je me suis dit, bon, ben, avant de pouvoir tirer des conclusions, il va falloir attendre un moment. Et ma deuxième pensée a été, ah, mais les gens vont pas attendre un moment, ils vont tirer des conclusions et ça va être une shitstorm sur Twitter. Et ça n'a pas manqué aujourd'hui. Mais c'était d'autant plus. Donc, moi, j'ai passé une bonne partie de la journée, la première moitié de la journée, on va dire, à dire, écoutez, attendez de voir ce qui est, parce que le premier problème, c'est que tout un tas de gens se sont mis à, dont les médias, faut dire ce qui est, se sont mis à commenter dès ce matin et à donner leur avis sur qui c'est qui avait gagné, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Alors que les informations étaient extrêmement parcellaires, notamment sur ce qui aurait constitué vaguement l'accord entre les parties autour du cessez-le-feu. Ça l'est encore aujourd'hui, parce qu'à l'instant, là, j'ai mis BFM TV rapidement avant de lancer l'émission pour voir ce qui se disait, quelle était l'ambiance médiatique, et c'était encore que, ben, en gros, on n'a pas bien compris. Et le fait est qu'on arrive à un moment où on ne sait même pas si le cessez-le-feu est encore en vigueur, parce que les seules conditions sur lesquelles on était à peu près d'accord ce matin, enfin, sur lesquelles il y avait à peu près consensus, sur lesquelles les diverses sources, notamment les divers. Plans, les diverses listes de points qui avaient été mentionnées semblaient s'accorder. C'était un, qui avait un cessez-le-feu. Deux, dont la portée était floue, hein, mais bon, il y avait un cessez-le-feu. Deux, une réouverture du détroit d'Ormuz, dont la portée était également floue. Et troisièmement, des négociations qui démarraient, dont la portée était également floue, puisque il était question d'un point de départ. D'une base acceptable de début de négociation, avait dit Donald Trump, à propos d'un plan en 10 points, dont il semble ce soir que ce qu'il entendait lui par plan en 10 points n'est pas ce que les Iraniens ont dit ce que c'était. Donc on ne sait même pas s'ils étaient d'accord entre eux, qui manipule qui ment sur l'éventuel accord qu'il y a eu. Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que ce sont les Pakistanais qui ont forcé une espèce d'accord en faisant l'intermédiaire, en faisant semblant que les mecs étaient d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, on arrive ce soir avec un cessez-le-feu qui paraît très limité, pratiquement limité aux Américains eux-mêmes. Des Iraniens qui semblent limiter très fortement leur libération du détroit d'Ormuz, puisque à la fois ils ont dit que ils laisseraient passer que quelques bateaux par jour, une douzaine, ai-je vu. Sur BFM TV, il disait que l'Iran venait d'annoncer que. Alors, d'accord, les bateaux peuvent passer, mais faites très attention parce qu'il y a des mines. C'est un moyen de maintenir le truc fermé tout en y disant qu'on l'a ouvert, quoi. Si vous dites oui, d'accord, mais faites attention à des mines. Si vous invitez les gens à bouffer chez vous et que vous dites dans le jardin il y a des mines, donc faites attention en traversant, les gens se font sans doute porter pâle. Donc, voilà où on en est dans ce gros foutoir. Et donc c'est sur la base de ce foutoir qu'un certain nombre de gens ont prétendu juger de la situation. Et comme d'habitude, quand c'est le foutoir et que toutes les informations sont floues, les gens disent que ils avaient raison, n'est-ce pas ? Et que les choses sont ce qu'ils avaient dit. Et donc, vu que l'opinion transversale est unanime entre à la fois les grands médias français et les médias dissidents, c'est que Trump fait de la merde en Iran, et les Américains vont forcément perdre, etc., c'était la vérité de la journée. Bon. C'est peut-être pas faux, encore une fois, mais c'est pas la question. Notamment, il y a un gros problème quand vous voyez ce matin, dans le deal en gros qui a été annoncé par les Iraniens, c'était le fait que leur droit à l'enrichissement était reconnu. Ce qui paraissait quand même extrêmement improbable de la part de Donald Trump. Et honnêtement, si ça faisait partie du deal à la fin, oui, votre droit à l'enrichissement est reconnu et on vous laisse votre stock, je serais le premier à dire qu'effectivement, c'est une humiliation pour les États-Unis. Parce que ça en serait une. Mais c'est en même temps ça qui rend d'autant plus invraisemblable, ou en tout cas que ça mérite d'éveiller le doute de la part de celui qui l'entend, que cette actu puisse être vraie. C'est quand même douteux. Et justement, dans la façon dont Trump a parlé, lui, on a plutôt l'impression que lui, il entendait que l'enrichissement était terminé, et que l'Iran renonçait à l'enrichissement. Et donc vous voyez bien que, en fonction du point sur lequel vous décidez que vous avez agréé, soit c'est une victoire américaine, soit c'est une victoire iranienne. Mais du coup, tous les gens qui vous disent, en fait, Donald Trump, tout ce qu'il a obtenu, c'est l'ouverture du détroit d'Hormuz, ce qui n'était pas l'enjeu de la guerre à la base, oui, d'accord, mais à condition que ce que vous me présentez soit vrai. Ce qui apparemment n'est pas du tout le cas. Donc très honnêtement, toute la journée et encore à ce stade-là, on a parlé beaucoup sur du sable. Ce qu'on a vu de message de Trump aujourd'hui, c'est quoi ? C'est essentiellement qu'il a dit... On va essayer d'aller faire un petit tour sur son réseau. Et puis on va regarder ça, d'ailleurs. Alors. Non, parce que c'est pénible, les gens qui réfléchissent avant. Surtout que, petite précision, quand même, je rappelle, je recadre le débat hein, un petit peu en ce qui me concerne. Moi, je dis que de toute façon, le régime iranien va tomber. Le régime iranien va s'effondrer parce qu'il est totalement en bout de course, il est totalement en bout de course d'un point de vue endogène. Donc, allez voir encore l'émission que j'ai fait vendredi. Que les Américains soient intervenus ou pas, ce régime allait finir par tomber. Je pense que l'intervention américaine va accélérer un petit peu ça, en ayant finalement préempté un certain nombre de choses que la révolution fait, notamment les limitations d'une partie des élites en place. Bon. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains gagnent ou perdent la guerre, le régime s'effondrera dans les mois qui suivront. Il va y avoir une mutation interne, ça ne changera pas. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que Trump est invincible et qu'il va forcément gagner, de lui-même, du fait de son opération. Ce que je dis, c'est que le calcul américain, à la fin, dans quelques mois, il apparaîtra forcément comme gagnant, parce que même si les Américains font de la merde, le régime va finir par tomber. Parce que non, le régime ne sera pas relégitimé par cette guerre. Ça n'existe pas. Tous les cas historionomiques que j'ai de révolution nationale, même quand le pays a gagné, vous avez une révolutionnaire. L'Italie, elle est parmi les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Elle fait sa révolution nationale. Le Japon est parmi les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Il fait sa révolution nationale aussi. Donc ça ne change rien. Ce qui change... c'est les difficultés aussi au lendemain de la guerre. Et les difficultés économiques, notamment de l'Iran, elles vont durer après la guerre. Hein, parce que c'est un pays qui n'a pas accès aux marchés internationaux pour se refinancer correctement. Parce que c'est un pays dont l'économie a été tapée. Hein, ils ont tout un certain nombre de secteurs qui ont été bombardés. Et toute une partie de son armement a été détruite. Et vous allez vous retrouver avec des élites, quelles qu'elles soient, qui devront assumer cette guerre au lendemain, avec un pays qui, globalement, économiquement, etc., sera dans un état à la sortie pire que ce qu'il était à l'entrée de cette guerre. Parce que c'est ça, la réalité. Alors vous pouvez dire, ça y est, maintenant, ils ont le contrôle du trois d'Hormuz, très bien. Bon, déjà, non. En tout cas, c'est pas sûr. En tout cas, on sait pas combien de temps ça va durer. Semble-t-il qu'ils ont proposé de le taxer, les passages du trois d'Hormuz, et ils ont proposé à Oman, donc qui est en face... De partager le truc. Hein. Je vais peut-être afficher la carte pour que ce soit clair pour tout le monde. On va faire ça aussi. On va chercher les deux. Mais bon, je pense que tout le monde voit le détroit d'Hormuz maintenant, mais enfin, on va quand même leur montrer. Donc, on va... Alors, attendez, parce que je vais voir si ça s'affiche. Tac, et... Oh, ça s'affiche tout de suite aujourd'hui, c'est magnifique. Donc, le détroit d'Hormuz que vous voyez, donc vous avez partagé entre Oman Et qui pas tout seul d'ailleurs, hein, il pourrait y avoir aussi, aussi Ashman et Russell Kaiman du côté. Mais enfin, l'essentiel, c'est ici, ils considèrent que c'est avec... De toute façon, c'est difficile pour l'Iran de négocier avec les Émirats Arabes Unis, vu qu'ils sont assez échafaudés. D'ailleurs, semble-t-il qu'il y a des quelques frappes qui ont été menées sur, sur ces îles-là, ai-je compris, aujourd'hui, dont on ne sait pas trop qui c'est qui l'a fait, qui semble que ce soit les Émirats Arabes Unis. Il faut voir qu'il y aurait une photo qui aurait été prise d'un mirage émirati, enfin... Là aussi, petit doute, les Émiratis qui se mettent à taper au moment où il y a un cessez-le-feu, parce que ça ne leur va pas. En tout cas, de toute façon, Oman a dit non, pas question pour le péage, parce que eux, ils savent très bien qu'ils ne se feront pas copains avec tous les autres qui ne veulent pas du péage dans la région, et il ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas parce qu'on lui sert le truc sur un plateau qu'ils doivent accepter. Donc ce contrôle, il n'existe pas vraiment. Donc il faut se... Donc l'Iran, de toute manière, ne s'en sort pas dans une meilleure situation qu'il était avant. C'est pas vrai. Alors, et qu'a dit Donald Trump? Alors, on va voir, ça se trouve, il a redit quelque chose depuis que je suis allé voir la dernière fois. Alors, par contre, son réseau social est pourri, il y a plein de trucs partout. Non, voilà. Alors, ça, c'est le dernier truc qu'il a dit. Il l'avait déjà dit cette nuit. Attention, il y a des trucs qui sont sortis sur CNN qui sont faux. Parce que CNN avait publié, justement, c'est d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tous nos médias ont sorti le truc, parce qu'il faut quand même avoir bien ça en tête. Les grands médias français, c'est des mecs, ils vont regarder CNN. Voilà, ensuite, ils viennent vous répéter ce qu'ils ont entendu sur CNN en faisant mine que c'est eux qui ont eu les idées. Voilà. Ce qui, déjà, vaut le pas très haut forcément sur CNN, mais alors forcément qu'en plus c'est recraché, je vous laisse imaginer. Mais donc, CNN a, aux États-Unis, publié la version iranienne, qui a été balancée, semble-t-il, dans les médias iraniens, et qui est ce que les Iraniens montrent à leur population pour dire « Regardez comment on s'en sort bien ». Forcément, s'ils font publient leur liste de courses et qu'ils disent que Donald Trump a accepté ça, parce qu'en plus, il y a ça, hein, c'est que vous leur dites il accepte ça comme base de négociation, il peut vouloir juste dire qu'il a envie de négocier, parce que c'est ce que cherche Donald Trump depuis le début. Le problème de Donald Trump, c'est que les Iraniens, c'est les seuls avec lesquels il n'y a personne à qui parler. Khamenei a toujours refusé de lui parler. Donc, du coup, en soi, obtenir la possibilité de négocier directement, pour Donald Trump, c'est un avantage. Et donc, dès cette nuit, il a dit, alors bien sûr avec ses outrances habituelles, je vais lancer une enquête fédérale contre CNN pour savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ça, etc. Bon, bref. Mais du coup, chez nous, les médias ont récupéré le truc en disant, ben voilà à quoi adhère... Alors que, je veux dire, dans l'instant, Donald Trump avait dit, non, c'est pas ça. Donc au minimum, vous le présentez en disant, c'est pas ça. Bon. Mais ils sont restés là-dessus. Et alors, là, Donald Trump, cet après-midi, a redit la chose suivante. Alors, je ne vais pas me faire suer à le traduire en instantané. Encore qu'il faut faire gaffe, parce que je croyais que la traduction était parfaitement fiable de l'anglais vers le français. Des fois, il y a des nuances qui font des contresens. Enfin bon, on va faire comme ça, et si j'ai un doute, ou si vous avez un doute, vous me le dites. Nombreux accords, listes et lettres circulent envoyées par des personnes n'ayant absolument rien à voir avec les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Dans bien des cas, il s'agit d'escrocs, de charlatans, voire pire. Leurs agissements seront rapidement démasqués une fois notre enquête fédérale terminée. Ouais, voilà, ils partent d'une enquête fédérale pour ça. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de faire une enquête fédérale sur de la désinformation. Seuls quelques points essentiels sont acceptables pour les États-Unis. Nous les examinerons à huis clos durant ces négociations. Donc en fait, ils refusent, en plus de dire de quoi ils parlent publiquement. Ce sont ces points qui ont fondé notre accord de cessez-le-feu, ce qui me fait penser, moi, que la promesse était vraie ou pas. Il a reçu des signaux, à tout le moins, qui pouvaient lui permettre de penser que sur l'essentiel, il aurait ce qu'il voudrait, sur le programme de missiles, sur l'enrichissement d'uranium, etc. Ce qui serait quand même plus cohérent avec le fait qu'il se soit autant emballé sur... même si, en plus, bon, il fait toujours dans l'outrance quand il arrive à un accord. Enfin, on a... voilà, d'habitude, il a au moins quelque chose. C'était pas une déculottée comme celle que les Iraniens ont présentée. C'est une solution raisonnable. Alors, vous voyez, dont on peut facilement se passer, à mon avis, ça, ce n'est pas ce que dit le texte. And can easily be dispensed. Non, c'est qu'on peut aisément mettre en œuvre. C'est tout à fait comparable aux fausses diffusions, aux fausses informations diffusées hier soir par CNN, qui mettait en avant une source sans aucun pouvoir ni autorité pour rédiger une lettre se prétendant digne de confiance. Et effectivement, hier soir, Donald Trump a publié le communiqué des des Iraniens que vous avez là. Voilà. Au nom de la République islamique d'Iran. Alors, c'est qui déjà? C'est le ministre des Affaires étrangères, Araghchi. J'exprime ma gratitude après. Et, on s'en fiche. En réponse à la requête fraternelle du président, du Premier ministre Sharif, donc le pakistanais, dans son tweet, et considérant la demande par les États-Unis de négociations basées sur son programme en 15 points, ainsi que l'annonce par le président des États-Unis d'Amérique à propos de l'acceptation du cadre général de travail de l'Iran, des propositions en 10 points, comme base des négociations, je déclare, si les attaques contre l'Iran sont arrêtées, nos puissantes forces armées, bien sûr, cesseront leurs opérations défensives. Pour une période de 2 semaines, le passage libre à travers le détroit d'Ormuz sera possible. Voilà. Donc, si je résume, nous sommes ce soir avec un deal, enfin un accord de cessez-le-feu, encore une fois, hein, ça reste très léger, c'est un cessez-le-feu, donc c'est pas la fin de la guerre, extrêmement flou, dont en fait on sait vraiment pas grand-chose, dont il semble que du point de vue de Donald Trump, ça implique la fin de l'enrichissement d'uranium, du point de vue des Iraniens, non, ce qui est quand même un gros problème, parce que c'est un des problèmes de négociation majeurs. Alors s'ils sont pas d'accord sur quoi ils sont d'accord, c'est gênant. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, la mise en pratique du cessez-le-feu est extrêmement douteuse. Voilà. Parce que on peut pas vraiment dire que le détroit soit débloqué. On peut dire que les Américains ont arrêté de bombarder aujourd'hui, mais pas forcément les autres. Puisque, vous le savez, Israël a bombardé très lourdement le Liban. Ils ont mené 100 frappes en 10 minutes. Dans des zones qui en plus sont assez densément habitées, donc avec, semble-t-il, de gros dommages collatéraux. J'ai vu qu'il y avait à peu près 1 000 de victimes, un peu plus d'une centaine de morts et plus de 800 blessés à Beyrouth. Alors, première chose, interrogation sur la question de savoir si le cessez-le-feu s'étendait à l'Iran, au Liban. D'après l'Iran, oui. D'après les États-Unis, non. C'est encore un problème qui vous montre que ça a été quand même. Un petit peu bâclé, à tout le moins. Deuxième chose, ça pose la question, donc ces bombardements, de savoir ce que Israël cherche à faire. L'hypothèse la plus favorable à Israël, on va dire, c'est que, vu qu'ils ont quand même tapé en pleine journée, etc., c'est-à-dire un moment qui semblait quand même assez dangereux et pas minimisé, pour le coup, les éventuels dommages sur les civils, on peut penser que les Israéliens ont eu peur d'être bloqués justement par le cessez-le-feu conclu entre Trump et l'Iran et ont utilisé un petit peu l'incertitude pour se précipiter pour taper et s'estimant devant se précipiter, n'ont pas pris de mesures pour minimiser les pertes civiles. Ça, c'est l'interprétation peut-être la plus favorable à Israël. La plus défavorable à Israël, c'est possiblement qu'il y ait aussi une volonté de provocation de la part d'Israël vis-à-vis de l'Iran pour saboter le cessez-le-feu. En se disant, on ne peut pas carrément aller bombarder l'Iran parce que ça fait trop, c'est nous qui sabotons le cessez-le-feu. En revanche, si on tape très fort sur le Hezbollah, l'Iran peut ne pas pouvoir se permettre de riposter et donc être obligé finalement de considérer qu'il y a rupture du cessez-le-feu, même si ce n'était pas prévu dans les accords, etc. Ce qui serait cohérent avec ce qui avait déjà été fait par ce qui avait un petit peu lancé la guerre. Hein. On se souviendra que c'est aussi là. Alors que les choses semblaient aller vers se calmer, en tout cas qu'il y avait une pression qui commençait à se mettre sur Israël il y a 2 ans, autour de la guerre, Israël avait bombardé le consulat iranien à. C'était un consulat ou une ambassade, je ne sais plus. À Damas. Et c'est ça qui avait entraîné la première vague de frappe de missiles de l'Iran sur Israël. Et donc ça avait relancé la guerre avec la légitimité d'Israël finalement à poursuivre ses frappes, alors qu'on était dans une phase où Biden voulait leur mettre la pression pour qu'ils arrêtent. Et donc ils avaient joué cette carte de la provocation pour poursuivre et étendre le conflit et pas être obligé d'arrêter finalement. Donc voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc j'ignore quelle est la juste interprétation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que du coup, il y a eu des morts qui... qui scandalise un peu la communauté internationale, qui trouve, qui, en tout cas, et les médias en tout cas, chez nous, qui regarde la brutalité donc de ces frappes au Liban. Et l'effet recherché ou pas, excusez-moi, semble, je vous ai réveillé, semble réussi auprès de l'Iran, puisque c'est un petit peu de là qu'est né le quasi-effondrement, en fait, du cessez-le-feu dans la journée. Même s'il y avait encore eu, une fois, des frappes, puisque c'est combien ? Il y a eu un recensement des frappes qui ont été menées aujourd'hui par... c'est Open Source Intel. D'après, l'Iran a lâché 94 drones et 23 missiles sur les États du Golfe aujourd'hui. Le Koweït a reçu 28 drones, dont certains ont touché des installations pétrolières et des usines de dessalement. Les Émirats ont intercepté 17 missiles et 35 drones. Bahreïn a intercepté 6 missiles et 31 drones. Donc ça fait quand même beaucoup de taper, hein, pour un cessez-le-feu, surtout que de leur côté, les Américains ont complètement respecté le cessez-le-feu, puisqu'ils n'ont pas, ils n'ont pas bombardé. Donc c'est quand même... Ça pose question. Et il y a Shehbaz Sharif, je vois, qui juste avant, donc le type du Pakistan, qui a dit, alors je sais pas, ouais, mais je sais pas si c'est toujours compliqué de savoir de quand est daté le truc, parce que c'est Open Source Intel qui le relaie, donc je sais pas, non, je vais pas le dire, qui parlait d'un, lui disait que ça incluait le Liban, semble-t-il, mais voilà, c'est comme je vous disais, c'est le foutoir, quoi. Ah, je vois, Restitutor Orientis, qui est d'habitude bien informé, dit que l'administration américaine affirme que Téhéran a signalé qu'il pourrait transférer des quantités d'uranium hautement enrichi dans le cadre des discussions diplomatiques en cours. Oui, donc ça serait que, en fait, en tout cas, ce qu'on a compris du côté américain, c'est qu'ils étaient d'accord pour qu'il y ait le transfert, quoi. Et que sur la question de l'enrichissement. Donc pour le coup, ce qui scellait une victoire américaine d'une certaine manière, parce que ça termine la question de l'enrichissement de l'uranium, qui est quand même décisive, en tout cas dans la justification de la guerre à la base. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'il y a encore des frappes qui sont parties un petit peu dans tous les sens, et on doit se demander d'où viennent ces frappes ? Parce qu'en fait, et c'est un petit peu la problématique fondamentale, si vous voulez, je vous en avais parlé il y a quelque temps, je vous avais dit, le risque avec la défense mosaïque, la décentralisation de la défense après la destruction du commandement unifié iranien, ben c'est qu'on se retrouve avec des seigneurs de guerre, petit à petit, qu'au fur et à mesure que le temps passe, chacun prenne un peu son indépendance et agisse selon des questions de faction, etc., à l'intérieur de l'État iranien. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus d'État central qui est capable de s'imposer à la totalité du système. Et là, c'est vraiment le foutoir. Et donc, alors j'avais vu des infos ce matin passé, je ne sais pas si c'était avéré, ça serait logique que ça le soit, mais disant que le commandement iranien aurait prévenu, grosso modo, les États-Unis. Ce qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas eu trop de réactions côté américain aux frappes qu'ils ont eues dans la journée, que ça allait être compliqué de faire passer le message à tout le monde. Mais quand vous en êtes là, à dire que pour indiquer à vos 31 commandements militaires sur votre propre territoire que vous arrêtez les frappes, ça montre déjà à quel point les Américains et les Israéliens ont bousillé vos systèmes de communication intérieure. Et ça montre aussi que l'autorité de la chaîne du commandement est quand même un petit peu amputée. Et là, on arrive, si vous voulez, du fond du problème. C'est que quand vous avez décapité toute la chaîne de commandement, une bonne partie de la chaîne de commandement, et que, à tout un tas d'endroits, vous savez, on vous avait dit que chacun avait désigné 2-3 personnes pour lui succéder, voire plus, pour qu'on descende comme ça. Le problème, c'est que quand vous commencez à arriver au deuxième ou troisième successeur des commandants locaux, eh bien, ils sont pas, il ne faut pas oublier que les gens ne sont pas des robots. Le commandement, la structure hiérarchique, c'est aussi une question sociale. Si vous arrivez au deuxième, troisième, vous vous retrouvez avec, et que vous avez plusieurs endroits où c'est le deuxième, le troisième dans la ligne de mire, dans la ligne de succession, ce sont des gens qui ne se connaissent plus forcément, personnellement, qui ne sont pas forcément habitués à interagir, qui n'ont pas les mêmes liens personnels que pouvaient avoir ceux de l'échelon supérieur de la pyramide, parce que plus vous montez dans la pyramide, moins il y a de gens, donc plus ils se connaissent, d'accord ? Plus vous descendez, plus vous tombez sur des îlots qui sont séparés. Et si vous coupez tout le haut de la pyramide d'un coup, ben vous vous retrouvez avec des gens qu'il est extrêmement difficile de coordonner parce que c'est des gens qui n'ont pas de rapports sociaux habituels entre eux. Et là, ça devient quand même assez compliqué. Parce que vous ne savez plus si le pouvoir central est capable de se faire obéir. Et vous ne savez pas non plus si les négociations que vous les avez effectivement avec l'État iranien ou vous les avez avec une faction dans l'État iranien alors que les autres factions ne sont pas d'accord. Donc à partir de ce moment-là, la question de savoir même s'il est possible d'obtenir un cessez-le-feu et s'il est possible de faire la paix se pose. Parce que vous êtes face à un État qui commence à avoir sa puissance publique qui est éclatée. Encore une fois, je renvoie à ce que je vous avais expliqué. C'est, pendant la Révolution chinoise, c'est comme ça. Vous avez le territoire chinois qui avait éclaté, c'était des seigneurs de guerre qui tenaient des morceaux de territoire. Bon, on n'est peut-être pas encore là, mais on est dans ce processus de démembrement de la puissance iranienne. Il y a un moment où vous êtes en plein cœur de la guerre et il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez tout un tas de gens qui obéissaient à la hiérarchie de la République islamique quand il y avait Khamenei qui était là. Le fait de buter Khamenei, vous avez tout un tas de gens qui continuent d'obéir par principe. Mais vous avez des gens qui commencent à se détacher, qui commencent à penser de manière plus autonome, qui commencent à pas aimer le successeur qui a été désigné. Ça arrive, ça aussi. Vous en avez parmi les mollahs qui se disent pourquoi c'est les coordonnateurs de la révolution qui prend tout le pouvoir. C'était pas le but dans la République islamique. Il y a encore un autre problème au-delà de ça, pour ceux qui pensent que l'Iran a gagné, etc. Si le cessez-le-feu tient, qu'on a des négociations qui avancent, et quelle que soit l'hypothèse sur l'enrichissement de l'uranium, ce que vous voulez, etc., faut quand même se rendre compte qu'on se retrouve avec un régime de type totalitaire, hein, comme l'URSS, etc., en tout cas qui a cette vision-là de contrôle total de la société par le système étatique pyramidal, dans lequel les organes de contrôle de la société ont également un contrôle énorme sur l'économie du pays, qui tenait énormément sur la personne du guide suprême de la République islamique, dans lequel on a nommé guide suprême de la République islamique un type qui est dans le coma. Puisque l'information, semble-t-il, était confirmée ces jours-ci. On sait maintenant, le mec est dans le coma. Bon. Alors, nommez le mec qui est dans le coma au moment où vous êtes sous les bombes, où il faut riposter, où le but c'est de pourrir la situation régionalement, etc. Ok, ça peut être un calcul intelligent, parce que vous dites, ben comme ça, celui-là, ils peuvent pas le buter, ou ils peuvent pas faire pire. Donc vous avez un peu le leader fantôme, donc ça peut être pas mal. Bon. Mais après, une fois que la guerre est terminée, comment vous faites si vous avez un guide suprême qui est dans le coma ? C'est qui commande ? Quelle est la légitimité qui est apportée à ceux qui vont donner des ordres ? Ils ne peuvent pas dire que c'est le guide suprême qui leur a dit. Donc à ce moment-là, vous faites quoi ? Vous faites une espèce de conseil où les gens discutent. Alors déjà, vous êtes dans un changement de régime, forcément, à ce moment-là, parce que le système ne fonctionne plus pareil. Et là, vous allez pouvoir commencer à avoir des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'appareil d'État. Et donc, vous allez avoir tout un tas de glissements qui vont se faire. Et donc, ces glissements, ils se feront. Le glissement dans le régime, il va arriver. Encore une fois, je renvoie aux tensions qu'il y a eu entre Pezeshkian et les autres. Là, c'est, en ce moment, on parle... Aujourd'hui, j'ai entendu parler surtout de Khalibaf. Bon, Pezeshkian était moins là. Mais il est peut-être là aussi. Parce que, malgré tout, avec Araghchi, celui qui est censé diriger le gouvernement dont Araghchi fait partie, c'est Pezeshkian. Il n'est pas censé avoir beaucoup de pouvoir, mais enfin, c'est ça le rôle qu'il lui donnait constitutionnellement. Alors que Khalibaf, lui, c'est l'équivalent de... Il y a le Brand Pivet, si vous voulez, de Gérard Larcher, mettons, dans l'organigramme iranien. Donc il y a des gros doutes, en fait, sur la capacité interne même de l'Iran à pouvoir conduire cette négociation, et surtout, par le pouvoir central iranien, à faire respecter cette négociation par des gens qui... localement, ne sont pas forcément tous des commandants qui sont dans l'obéissance la plus absolue au pouvoir central. Surtout que vous aurez, parmi ces commandants, un certain nombre de types qui sont des radicaux, par exemple, qui, eux, sont pour la guerre totale, qui sont pour taper chez les voisins. Si ces gens-là, on leur dit maintenant, c'est cesser le feu, ben, ces gens-là, ils vont continuer à tirer en espérant faire sauter le cessez-le-feu. Parce que vous avez des gens, probablement, en Israël qui voudront faire sauter le cessez-le-feu, mais vous aurez des gens en Iran aussi. Parce que vous aurez des gens qui peuvent tout à fait craindre l'après dans cette guerre. En se disant, ben, peut-être que notre pouvoir aussi, on va le perdre. Notre pouvoir économique, ça va être compliqué. Et puis vous avez tout un tas de gens qui vont avoir du mal à être payés aussi dans l'Iran de demain, vraisemblablement. Donc les difficultés, elles ne sont pas du tout terminées à ce stade-là. Et tous les slogans qui disent ah, en gros il s'agit de faire ouvrir un Détroit qui était fermé, qui était déjà ouvert avant la guerre, c'est ça m'intéresse pas trop parce que moi c'est pas mon truc. Moi je vous ai dit ma vision du déclenchement de la guerre par les Américains en Iran, c'est pas du tout l'idée qu'il y avait une urgence à cause du nucléaire ou de choses comme ça. Pour moi, ce qui a motivé la décision américaine, c'est le fait qu'il y a la confrontation avec la Chine qui approche, que la Russie n'a pas voulu faire la paix, que la Russie est toujours très liée, et voire de plus en plus liée à la Chine. Donc, dans le cadre d'une confrontation mondiale, la confrontation mondiale est de plus en plus plausible. De deux, en étant de plus en plus plausible, elle se rapproche. Donc, il faut affaiblir le bloc. Et ceux qui on pouvait taper, c'était l'Iran. Si vous pensiez, c'est ça aussi, j'ai des gens qui me disent « tu pensais que ça irait très vite », je ne pense avoir jamais dit ça. En revanche, ce que j'ai dit dès le début, c'est vrai, c'est ne vous précipitez pas sur les conclusions. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire dès le troisième jour « ça y est, Khamenei est mort, mais le régime iranien n'est pas encore tombé, donc c'est fini, les Américains ont foiré, etc. » Je dis « patience, les choses, je ne connais pas de choses qui vont aussi vite, ça n'arrive jamais, surtout pas pour un truc de la taille de l'Iran ». Et surtout, ne comparez pas avec le Venezuela. Le Venezuela, vous avez quoi ? Le Venezuela, c'est un pays d'Amérique du Sud. Hein, c'est comme un pays d'Amérique du Sud. Donc, c'est pas sérieux. Non, c'est pas ça. C'est que ça n'a jamais représenté les mêmes dangers. Il y a une tradition de coup d'État où on renverse le chef, le type qui dirige, etc. Mais pas avec des appareils aussi fanatisés et installés que ce que vous avez en Iran. Le régime de Maduro, voilà, c'est un régime, le dictateur d'Amérique du Sud, avec une assise sociale dans une part du corps social, ça ne change pas. Mais c'est pas l'équivalent de l'URSS, si vous voulez. Alors, l'Iran, c'est ça. L'Iran, c'est une petite URSS, en fait. Hein. Le Venezuela n'avait pas de missiles pour déstabiliser la région. Et surtout, le Venezuela n'est pas dans une région où c'est aussi facile de tout déstabiliser. Quand vous avez une URSS ou une mini-URSS en bord du principal flux de pétrole mondial, forcément, ça change tout. Et donc vous avez une capacité de résistance qui est différente. Donc c'était évident qu'il ne suffisait pas de capturer ou de buter Khamenei pour que ça s'effondre d'un coup comme ça. Ne serait-ce aussi que parce que tant que la guerre est là, il n'y a pas de manifestation. Il faut attendre de voir qu'il n'y ait plus de guerre, justement, pour voir au niveau populaire comment ça jouera. Parce que là, je vous ai parlé des luttes de pouvoir qu'il pouvait y avoir. Les mouvements populaires, ça joue aussi. Parce que... tant que les choses sont calmes au niveau du peuple, les luttes de factions et tout ça, elles peuvent être un petit peu endormies. Mais si le peuple commence à s'agiter, vous avez des gens au sommet d'État qui vont commencer à choisir leur camp. Vous en avez certains qui vont vouloir voir les manifestations comme un danger. Vous en aurez d'autres qui verront les manifestations comme une opportunité. C'est-à-dire le truc, si je prends le parti des manifestants, il y a moyen d'augmenter mon propre pouvoir. Ou de jouer un glissement là-dessus. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est des choses que, de toute façon, on verra se développer par la suite. Donc, encore une fois, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives non plus sur l'issue du conflit, parce que... Alors, vous pouvez considérer que c'est parce qu'il y a de la moule, mais je pense que même, encore une fois, même si Trump faisait gravement de la merde en Iran, le fait que le régime, de toute façon, est destiné à basculer assez relativement rapidement, hein, donc dans les mois qui suivront, à l'intérieur du pays... à ce moment-là, ça sera interprété comme un succès de Trump. En tout cas, pour beaucoup. Logique post hoc ergo propter hoc. Vous en aurez qui miseront tout ça, mais en tout cas, il pourra crier victoire à ce moment-là, de toute façon. Donc, et puis, de toute façon, c'est pas la question. On s'en fout de... Pas pro-Trump, anti-Trump, c'est pas la question. La question, c'est de savoir comment les choses vont se déployer. À quel moment tombera l'Iran dans le cadre de la confrontation des États-Unis avec le reste ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Après, le détail, on s'en fout un peu. Mais pour moi, la certitude, c'est que cette guerre, en tout cas à ce stade-là, n'est pas terminée. Notamment parce que, si vous regardez, on serait même avec un cessez-le-feu, on serait dans la continuité de ce qui se passe justement depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire que c'est une guerre de toute façon par intermittence. Vous venez, vous tapez, vous repartez, vous négociez, puis vous revenez, vous tapez plus fort, vous repartez, vous négociez. Donc peut-être que ça finira par arriver, l'espèce d'Armageddon qu'a promis Trump. Je ne le souhaite pas aux Iraniens, j'espère que le régime tombera avant. Mais il y a beaucoup de choses encore qui peuvent se passer. Beaucoup de choses. Et quand, malgré tout, quand Donald Trump dit qu'il y a déjà eu un changement de régime à l'intérieur de l'Iran, il ne faut pas prendre ça comme une blague, etc. Parce que c'est partiellement vrai pour les raisons que j'ai dites. Ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, au contraire, c'est le début du mouvement. Mais ça s'amorce. Quant à la question de savoir s'il va y avoir effectivement un cessez-le-feu qui va fonctionner, si ça se trouve, la situation a déjà changé, je vais aller regarder éventuellement ce qu'on m'a envoyé pendant mon commentaire. Mais voilà, a priori, la façon dont j'ai perçu en tout cas cette journée. Et parce que pour moi, c'est encore une fois, il faut revenir au fond des choses, au fond de l'évolution, et surtout pas traîner de conclusion. Alors déjà, pas traîner de conclusion trop vite, mais il faut d'autant moins tirer des conclusions alors que vous n'avez même pas d'informations fiables, parce que c'est quand même ça ce qui est intéressant toute cette journée, il n'y avait pas d'informations fiables pour l'essentiel, quoi. Qu'est-ce qui m'a dit le gentil Romain? Boostin 91, super coupe Philippe. Oui, je suis allé me faire couper les joues aujourd'hui, le type m'a mis de la laque, du coup je suis coiffé pas pareil que d'habitude. Alors, c'est quoi qui m'a envoyé sur Twitter? Le vice-président de JD Vance va diriger l'équipe de négociation américaine à discussion prévue pour samedi matin à Islamabad. Ah oui, c'était prévu vendredi, finalement c'est prévu samedi matin. L'Iran préférait que Vance dirige les négociations. Il sera accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner. Oui, l'Iran préférer que Vance dirige les négociations après avoir accusé Witkoff et Kushner de ben évidemment, oui, Witkoff et Kushner, c'est les Juifs. Alors, les Iraniens n'ont pas envie de négocier avec des Juifs, ça paraît évident. Il faut les connaître un peu quand même, c'est un peu le minimum. Docteur Sherlock, c'est la guerre des restos à Top Chef, mais big up à tous les historionomes. Ah oui, ça existe encore, Top Chef. Mister Diagoras of Melos, pourquoi les USA ne larguent pas massivement des armes légères, manpads un peu partout dans les foyers de rébellion iraniens, peur de perdre le contrôle? Ouais, je pense quand même que oui. Parce que si c'est pour se retrouver avec des Afghanistan, des trucs comme ça, ils commencent quand même à être bien au courant. Et surtout que ça serait ailleurs, encore une fois, distribuer des armes légères, etc. Pourquoi pas? Mais à cause de la présence du détroit d'Ormuz, mettre le bazar dans la région et risquer que ben, vous ayez des nouveaux outils qui s'installent en face du détroit d'Ormuz, ça revient au même et ça ne réglerait pas le problème, même ça le compliquerait. Que voudraient les Américains, c'est un État solide, même pas forcément démocratique, d'ailleurs je rappelle, parce qu'on a des États-Unis qui sont en phase de transition absolutiste. Ce qui caractérise un empire donc qui entre en phase absolutiste, c'est que il dirige tous ceux qui sont en dessous et qu'il aura tendance à ne pas favoriser nécessairement des régimes démocratiques à la base. Il va plutôt favoriser des trucs qui sont un peu à son imitation. Probablement ce qui est en train de se passer au Venezuela d'ailleurs. Donc vous faites en sorte qu'il y ait des libertés publiques. Par contre, que le leadership soit un peu autoritaire, ils s'en foutent. Mais donc ouais, je pense qu'ils veulent pas perdre le contrôle. Ouais. Le truc Restitutor Orientis, ça je l'ai déjà lu. Docteur Sherlock, merci pour le don. Bonsoir, une chronique courte. Où en serait-on maintenant si le Hamas n'avait pas attaqué Israël? Alors ça, c'est une excellente question, très intéressante. Qu'est-ce qui se serait passé si le Hamas n'avait pas attaqué Israël? Ou s'il avait attaqué plus tard? Moi, je pense que la stratégie qui était poursuivie par l'Iran. Je pense qu'il ne serait pas passé grand-chose en fait. Parce que je pense pas que les Israéliens auraient osé attaquer directement l'Iran. Ils auraient peut-être trouvé des trucs quand même. Parce que si je suis tout à fait honnête, alors d'abord, la stratégie iranienne, qu'est-ce que c'était pour moi? Je l'ai dit l'autre jour, mais j'ai précisé sur ce point-là. La stratégie iranienne, donc, c'est de devenir ce que j'appelle une superpuissance asymétrique, c'est-à-dire avec des relativement petits moyens, des missiles et un territoire sanctuarisé nucléairement, étant capable de menacer justement les détroits, peser énormément sur l'ordre du monde de manière disproportionnée à ce qu'il est en taille. C'est comme une Corée du Nord, mais qui serait à un endroit stratégique. Bon, c'était ça l'ambition iranienne. Si l'Iran avait obtenu l'arme nucléaire, je pense qu'il aurait essayé de détruire Israël. Véritablement. Il n'aurait pas balancé la bombe nucléaire sur Israël, parce que ça, effectivement, c'était trop dangereux. En revanche, je pense que ce qu'ils auraient essayé de faire, c'est de détruire Israël avec des vagues de missiles balistiques, tout en sanctuarisant leur propre territoire avec l'arme nucléaire, et en disant à Israël, grosso modo, si vous nous balancez une arme nucléaire, on vous en balance une, avec bien sûr pas du tout le même rapport de territoire. Et en plus, ils auraient activé à ce moment-là le Hamas et le Hezbollah, donc ça aurait été l'attaque tous azimuts qu'on a craint pendant un moment que ce soit le 7 octobre et que finalement ça n'a pas été. Ça, c'est la stratégie. Bon. Est-ce que Israël aurait laissé ça faire ça jusque-là ? Pas forcément, parce que, en fait, les frappes qui ont été menées dans la région de Damas, notamment, Israël aurait eu l'occasion de faire la même chose, de faire le même genre de provocation sur le consulat iranien à l'occasion de la chute du régime de Bachar al-Assad. Et donc dans ce cas-là, vous savez qu'Israël, à ce moment-là, bombardait tout un tas de trucs pour détruire toutes les installations militaires qui appartenaient, pour pas que ça tombe aux mains, justement, du pouvoir encore considéré comme djihadiste de l'organisation d'Al-Shara. Mais ils auraient fait cette provocation à ce moment-là, je pense, et ça aurait poussé l'Iran à bouger aussi. Voilà. Alors peut-être que l'Iran n'aurait pas bougé directement. Peut-être que l'Iran aurait activé le Hezbollah, mais à ce moment-là, grosso modo, on aurait revu, peut-être pas dans le même ordre, mais revu à peu près les mêmes choses. Je ne pense pas qu'il y avait un chemin où l'Iran pouvait aller jusqu'au bout de son travail. Quoi. Voilà. La question, c'est surtout dans quelle mesure les bombardements israéliens en direction de la Syrie et du Liban après le 7 octobre ont favorisé la chute de Bachar al-Assad lui-même. Là, à ce moment-là, ça peut faire un petit changement. Mais voilà la façon dont je vois les choses. Philippe dit le gentil Roma, vous avez fait quoi de l'autre ? Non, c'est le gentil Roma parce que je pensais le gentil Godefroy, comme à l'ancienne façon. C'est au sens le noble, quoi, le gentil homme, quoi. Que vous inspire la résolution de l'ONU sur l'esclavage occidental, pire crime de l'humanité ? Il y a une volonté vraisemblablement de diminuer la légitimité d'Israël, justement, qui se base grandement sur la Shoah, qui est considérée en Europe toujours comme le pire crime contre l'humanité. Maintenant, c'est aussi dirigé contre le monde blanc en général. Donc on voit à l'échelle mondiale en fait la même chose qu'on voit dans les sociétés occidentales avec le décolonialisme, tout ça. Ça n'a pas grand-chose de surprenant à mon sens. C'est tout à fait cohérent. Mais le truc peut-être intéressant, c'est que on arrive à un moment où on a peut-être la mise en place d'une espèce de mise en résonance ou en adéquation, si vous voulez, du clivage politique mondial avec les clivages politiques internes à l'Occident. Velvet Overground, que pense-t-il du commentaire de Leavitt sur la sortie des US de l'OTAN ? Je ne vois pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Si Leavitt, c'est pas la porte-parole, et elle a dit quelque chose sur la sortie. J'ai vu passer un truc tout à l'heure encore qui dit que les États-Unis envisagent de quitter l'OTAN, mais bon, ça on l'avait déjà. Oui, c'est ça, c'est la porte-parole de la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'elle a dit ? La Maison Blanche dit que Trump va discuter la possibilité de quitter l'OTAN avec Mark Rutte. Ben, je sais pas, c'est possible. C'est possible. C'est sûr que la séquence qu'il y a eu autour du détroit d'Ormuz a pas forcément joué le truc de l'unité otanienne. Nous, en France, on a utilisé la crise pour faire libérer nos otages et faire passer un pauvre bateau de Rodolphe Saadé. Je disais sur Twitter, en fait, on a fait notre Orban. Hein. On a fait exactement ce qu'on reproche à Orban de faire à propos de la Russie, c'est-à-dire de jouer perso en vertu d'un strict intérêt matériel national. Voilà. Et je trouve ça assez peu élégant. Et voilà. Ça C'est problématique, hein. C'est problématique parce que ça va encourager encore plus les Russes et qui sont déjà, à mon avis, bien encouragés d'ailleurs. Alors, c'est pas idiot. Alyosha qui remarque qu'ils vont sortir et quand on sera attaqué par la Russie, ils recréeront une alliance plus large qui sera plus contraignante pour nous et avec leurs autres alliés. Oui, ça serait un petit peu dans le même sens que ce qu'il fait avec le Conseil de la paix par rapport à l'ONU. C'est-à-dire qu'il casse un truc qui existe pour le remplacer par un autre truc qui est plus comme il veut, plutôt que de juste le réformer. Pourquoi les US continuent d'amasser les troupes au Moyen-Orient? Ben oui aussi, ça c'est l'autre truc. C'est-à-dire qu'ils continuent de faire venir des tankers, ils continuent de faire venir des troupes, ils préparent le coup d'après, très clairement. Donc il y a l'idée de maintenir la pression et de l'accroître. D'ailleurs c'est ce qu'a dit Pitexet, je crois, il a dit on ne part nulle part, on continue de traîner dans le coin. Peut-être aussi que les Américains ont un plan d'intervention au sol pour laquelle ils ont besoin d'un peu plus de temps. Que Donald Trump a voulu manipuler les marchés à la baisse pour alléger la pression sur son opinion publique avec le pétrole, c'est possible aussi, hein. Et il a peut-être fait totalement semblant de croire ou d'être d'accord avec le cessez-le-feu avec les Iraniens juste pour obtenir cet effet-là. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait, hein, de faire baisser les cours comme ça avec des déclarations. Donc voilà, en même temps, il peut. Moi, je pense qu'il joue les deux. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà décidé ce qu'il allait faire comme intervention. Mais il se dit, bon, ben, dans le meilleur des cas, je vais réussir à obtenir ce que je veux par la négociation. Et dans le pire des cas, je taperai. Et il se prépare à taper. Voilà. Et à mon avis, parce que je n'ai pas reparlé de ça, je n'ai pas reparlé de la chute du F-15 et de la libération du pilote. Mais ça a été ça aussi une démonstration de force. Assez impressionnante, quoi. Les Américains qui sont allés en plein milieu du territoire iranien libérer leur gars. Ah, je vous ai pas dit de mettre des pouces, hein. La dernière fois, j'ai pensé qu'à la fin de l'émission. Pensez à mettre des pouces, très important pour le référencement. Ça fait du bien. Oui, ça a été une démonstration de force, naturellement. Alors, tous les gens qui viennent vous dire oui, mais ils ont perdu des avions dans le truc. Sont les premiers à vous dire que le fait qu'il y ait eu 15 000 cibles détruites en Iran, ça ne fait pas une défaite. Donc voilà, un peu de cohérence s'il vous plaît. Donc certes, c'était coûteux, mais de toute façon, politiquement, c'était rentable parce que, un, les Américains ne pouvaient pas se permettre de perdre un type, et deux, c'était fort utile pour eux de faire ce genre de démonstration de force, justement, en montrant qu'on est capable d'aller chercher notre gars au cœur du truc. Alors, je vois une actualité qui vient de The Global Eye, le canal Telegram. L'administration de Trump envisage, pardon, de retirer ou de réduire le nombre de troupes de l'OTAN dans les pays qui ont refusé de supporter les efforts militaires américains dans la campagne d'Iran, en redéployant ses forces pour les pays qui ont donné de l'aide. Alors la question c'est quels sont les pays qui ont donné de l'aide? Parce que les pays qui ont éventuellement qui ont l'habitude de donner de l'aide dans ces cas-là, qui sont les Polonais, etc., n'ont pas de marine, donc je vois pas trop ce qu'ils ont aidé. Ouais, donc je vois pas trop quelle forme ça prendrait. Shualon, Israël a commencé cette OPEX avec pour objectif de faire tomber le régime, détruire les missiles balistiques et leur fabrication, et enfin la capacité nucléaire. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Ça veut dire qu'Israël a perdu la guerre? C'est ça sa question, mais il y a une photo entre-temps, j'ai l'impression, et je vois pas ce qu'elle dit. Ben, pour Israël, s'ils arrivent pas à mettre fin, alors mettre fin au programme de missiles, peut-être pas, parce que je pense qu'Israël sait que s'ils arrivent à mettre fin au programme nucléaire, ça conditionne tout le reste. Parce qu'ensuite, même si les Iraniens ont des missiles balistiques, le fait qu'ils soient pas nucléarisés fait que Israël aura toujours un avantage et pourra toujours intervenir pour les bombarder. Donc le problème, c'est véritablement plutôt la capacité nucléaire. pour la chute du régime, bah, ils n'ont pas encore réussi, mais encore une fois, et ça, c'est, bah, mais ça, c'est, pour, c'est le sujet sur lequel je ne peux pas avoir discussion avec les gens en général, parce que effectivement, ce ne sera pas forcément la guerre en soi qui fera tomber le régime, mais le régime va tomber de toute façon, historiquement, si vous voulez. Donc, à la limite, je dirais plutôt qu'Israël aurait pu, si c'était juste faire tomber le régime, Israël aurait pu faire l'économie de cette guerre, dans ce sens-là. Mais parce que, pareil, la position d'Israël, finalement, dans la guerre, elle n'est pas la même que la position des États-Unis. Les États-Unis, ils font le calcul d'aller faire tomber l'Iran. Comme j'ai dit la dernière fois, si le but, c'est de faire tomber juste l'Iran, ça pouvait se faire tout seul de l'intérieur. Le truc, c'est que les États-Unis, ils ont un intérêt stratégique supérieur qui est celui d'envoyer également un signal à la Chine, la Russie, etc. Tout ça, c'est un jeu dans lequel Israël n'est pas vraiment. C'est pas ce qui concerne directement Israël, ça. La Chine, la Russie, etc. Ça, c'est le jeu mondial. Israël, il est dans son jeu régional, et dans son jeu régional, son intérêt, c'est l'Iran en tant que tel. Et pour le coup, il n'y avait pas forcément besoin de taper l'Iran pour le faire tomber. Ça risque d'accélérer les choses d'une certaine manière. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que les gardiens de la révolution avaient besoin d'être quand même un peu étriés. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui va en sortir. Hein. On a des témoignages qui viennent de l'intérieur. Alors j'ai du mal à... J'ai envie de les croire, parce que ça irait dans le sens de ce que je dis, mais je ne peux pas me contenter de ça pour les tenir pour valides. On voit des témoignages venant de l'intérieur de l'Iran qui ont l'air de dire que ben, les gens ont vu le régime être affaibli, que le régime continue à jouer la terreur par contre, qu'ils ont fait venir des milices irakiennes, etc. Mais qu'il y a une vraie envie de se battre, etc. Donc, on verra. Mais enfin, en tout cas, pour moi, le régime va tomber. Voilà, le régime y tombera, et donc d'une certaine manière, quelque part, Israël aura son succès, mais ce ne sera pas forcément son succès, c'est plutôt l'évolution iranienne d'elle-même qui vient dans ce sens-là. Ce sera pareil, je le disais, pour les Américains. Docteur Sherlock, encore merci. Quel sera le régime iranien ? Peut-il être notre régime non-islamiste, mais tout aussi impérialiste dans la région ou aussi anti-Occident ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que fait la République islamique aujourd'hui qui relèvent, je dirais, des fondamentaux géostratégiques de l'Iran. L'Iran est un pays, comme la Turquie, qui, par nature, prétendra toujours à l'hégémonie régionale. Parce que ça fait 3000 ans qu'ils font ça. Je cite souvent le fait que, si vous regardez les 1000 dernières années d'histoire dans cette région, surtout les 500 dernières années, à partir du moment où l'Empire ottoman est né, et où l'Empire s'est fait vide, s'est reconstitué, vous avez... Mais ça, c'est sur la même frontière à peu près d'ailleurs qui était celle entre l'Empire romain et l'Empire parthe puis sassanide, vous avez une lutte d'influence dans cette région-là. Le programme nucléaire iranien, il date du Shah. Et sous le Shah, avec l'achat de matériel américain, etc., la visée iranienne, c'était devenir l'hégémon régional aussi. Pas dans la même hostilité avec Israël, par exemple, donc il y avait possibilité de s'entendre, mais malgré tout avec une volonté d'être la puissance dominante dans la région. Et ça, ça ne changera pas avec la chute de la République islamique. L'Iran aura toujours la volonté d'être la puissance dominante dans la région. Mais après, ça change quand même. L'Allemagne s'est pas comportée, a toujours une volonté de domination européenne, il faut être très clair. Maintenant, bon, c'est moins désagréable quand c'est Angela Merkel ou Friedrich Merz, que quand c'était Adolf Hitler. Faut quand même être cohérent là-dessus, voyez. Donc, c'est pas parce qu'un pays a ses fondamentaux stratégiques que le mode d'expression sera identique. Et un Iran qui chercherait à dominer toujours la région, mais qui serait, on va dire, qui aurait de meilleures libertés publiques, qui serait plus prospère, qui serait plus dynamique économiquement, il apporterait également aussi beaucoup à la région. Donc ça serait de toute façon un mieux, malgré tout. Mais ça ne fera pas disparaître les tensions... dans la région, ça c'est évident. Il y aura un autre régime qui ne sera pas islamiste, mais il y aura quand même un nationalisme iranien, parce qu'ils sont encore dans ces phases-là, et ils auront toujours une volonté de domination régionale. L'ambition nucléaire, ils la mettront peut-être en berne, mais de toute façon, au fur et à mesure qu'ils s'enrichiront, parce que c'est un pays qui va s'enrichir, ils ont un potentiel humain qui est de grande qualité, s'ils ont accès aux capitaux, s'ils ont plus de levée de sanctions, etc., c'est un pays qui va redécoller, l'Iran, très clairement. Et à ce moment-là, il y aura des tensions. Il y aura des tensions avec la Turquie, il y aura des tensions probablement avec l'Arabie Saoudite, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'effacerez pas. Oui. Donc, je dirais pas tout aussi impérialiste, du coup, parce que ça serait vraisemblablement moins violent. Mais il y aura des fondamentaux qui seront toujours là aussi, de toute évidence. Vous savez, c'est des trucs qu'on oublie, mais pour vous illustrer ça, sous Stresemann, qui était le chancelier allemand sous Weimar un moment où il y a eu un réchauffement relatif des relations entre les Alliés et l'Allemagne, et même avec la France, finalement, des tentatives de rapprochement, de discussion, etc. La grande volonté de Stresemann, un de ses grands objectifs, c'était de récupérer les territoires qui avaient été perdus. Hein. Danzig, tout ça, ça faisait partie de ce que voulait Stresemann. Alors Stresemann n'aurait peut-être pas fait comme Hitler, mais le désir était là, il faut bien se rendre compte. Voilà, donc, mais bon, déjà, si vous avez quelqu'un qui fait ça de manière plus civilisée, c'est mieux, c'est sûr. Velvet Overground. Au Venezuela, on peut considérer que le régime est tombé. J'ai lu qu'il libère les prisonniers politiques. Oui, alors le régime n'est pas tombé. Disons que, d'une certaine manière, si. Mais d'une certaine manière, non. Le truc, c'est qu'il est hiérarchiquement lié au régime américain maintenant. Donc, on lui fait faire un certain nombre de choses pour le mettre plus en conformité avec ce que les États-Unis attendent d'un pouvoir politique. C'est-à-dire, effectivement, libérer des prisonniers politiques, éliminer de l'organigramme les gens qui sont anti-américains, comme l'ancien ministre de la Défense, qui a été remplacé par un autre type qui a été assez brutal dans la répression des opposants politiques sous Maduro, mais qui est considéré comme étant beaucoup plus pro-américain, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus compatible avec les États-Unis. Il s'appelle Lopez, je crois, un nom à rallonge, je me perds tout le temps. Donc le régime est clairement en transition, parce qu'au bout d'un moment, comme je vous dis, quand vous libérez les prisonniers politiques, que les gens qui font de la politique, qui sont dans l'opposition, se sentent moins menacés parce qu'ils savent qu'il y a Oncle Sam au-dessus qui veille et qui empêchera qu'eux, ben à ce moment-là, vous avez une opposition qui se reconstitue et vous avez un glissement, normalement, de la société qui peut commencer à se faire parce que la répression n'est plus là. Non, tu peux arrêter de prendre les questions parce que là, franchement, je vais arrêter bientôt. Hein. Je voulais faire un live pour faire rapide, mais pire, on en reparlera dans le live de la semaine, c'est pas grave. Pourquoi la Chine n'aide pas massivement la Russie et l'Iran ? Alors la Chine, vraisemblablement, aide déjà beaucoup la Russie et l'Iran, massivement, avec des composants, etc. Alors dans quelle mesure c'est de l'aide, dans quelle mesure c'est payé, ça c'est toujours la question. Mais si, il y a du matériel, il y a des choses qui arrivent vraisemblablement. Après, si aider massivement, c'est entrer en guerre aux côtés, ça c'est pas possible, elle ne peut pas le faire. Donc la Chine, elle est toujours dans le fait d'aider, mais en essayant de ne pas montrer qu'elle aide quand même. Parce qu'elle a quand même toujours peur de la confrontation, hein, ça, je maintiens ça. Ils veulent pas de confrontation. Voilà. Alors je vois. Ah oui, Hervé. Donc c'est peut-être réponse à ce que je disais sur les pays qui avaient participé. Le Portugal a réaffirmé sa décision d'autoriser les États-Unis à utiliser la base aérienne de l'ARES aux Açores. L'Allemagne a maintenu la base aérienne de Ramstein disponible en vertu d'accords en vigueur. L'Italie autorise toujours les États-Unis à accéder à ces bases et à les survoler, tout en précisant que toute utilisation offensive liée à l'Iran doit être préalablement approuvée par Rome. La France a également autorisé la présence d'avions de soutien sur ses bases pour des missions. Oui, donc en fait, à peu près tout le monde. Les seuls, c'est l'Espagne, mais l'Espagne, elle n'a pas grand-chose à foutre qu'on retire des troupes de chez elle. C'est avec les Britanniques, peut-être, que ça va mal se passer. Par contre, de toute façon, tout se passe mal avec les Britanniques actuellement. Leur bateau, apparemment, c'est pas brillant non plus. Enfin, bon, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Voilà. Bien. Ben écoutez, je vais vous laisser, je pense, sur ces belles paroles, parce que j'ai pas tellement de choses à ajouter ce soir. Je pensais que c'était important, voilà, de faire un point sur tout ça. Ça a évolué très vite. Est-ce que, du coup, je ne me rends même pas compte au moment où je vous parle à l'instant, si le cessez-le-feu tient encore ? Semble que oui. Mais à condition que ce soit étendu. Là, je vois le président de l'Iran affirme qu'un cessez-le-feu au Liban est une des conditions essentielles au plan d'accord. Mais qu'en disent les Américains ? Est-ce qu'ils ont dit OK ? Les Israéliens n'ont pas l'air d'avoir très envie. Donc, je ne sais pas. Écoutez, on va suivre. De toute façon, mon message de ce soir, hein, l'idée force, si vous voulez, de mon intervention, c'est véritablement la suivante. Il faut attendre. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Moi, je vous ai dit vers quoi ça va de toute façon, selon moi. Toujours pareil, sans connaître le chemin exact vers lequel on va vers ça, cette évolution en Iran. Mais pour moi, on y va. Après, je ne suis pas capable de vous dire si ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, ou si ça va prendre 6 mois. Je pense pas que ça prendra beaucoup plus. Pour moi, on est dans ces ordres de grandeur-là. Je vous en parlais l'autre jour avec l'Allemagne. Je vous disais que la crise de juillet, ce qui est un petit peu ce qui s'est passé avec le renforcement du pouvoir des IRGC, c'est un an avant le début de la fin pour l'Empire allemand. Et à mon avis, on est plus près de la fin parce que les manifestations qu'on a vues, etc., c'est déjà ça correspond à ce qu'on voyait déjà début 1918 en Allemagne. Donc on est à quelques mois de la fin, je ne peux pas être plus précis que ça. Voilà. Et donc, gardez ça en tête, chaque fois que vous voyez nous à l'actualité, un, attendez que ce soit bien vérifié, et pour savoir si oui ou non, parce que, et je terminerai là-dessus, pardon, et deux, gardez en tête ce qui se passe au bout. Et donc, et je terminerai là-dessus, la difficulté qu'il y a, selon moi, pour analyser ce conflit en particulier. Je pense que c'est encore plus difficile de savoir ce qui se passe et d'avoir une idée de ce qui se passe et du jugement qu'il faut avoir sur tout, sur qui c'est qui gagne, qui c'est qui a la haute main, etc., qu'avec le conflit en Ukraine, parce que pendant tout le conflit en Ukraine, vous aviez une différence nette, tout simplement, entre les médias mainstream pro-ukrainiens et les médias dissidents qui étaient largement pro-russes. Grosso modo, c'est plutôt les médias mainstream qui étaient dans le vrai que les médias dissidents, hein, faut dire ce qui est. Mais vous aviez les médias mainstream qui avaient quand même tendance à forcer trop le trait dans l'optimisme anti-russe, plus ou moins selon les moments, mais quand même de manière générale. Et dans ces cas-là, c'était toujours utile et à passer sous silence un certain nombre de réussites russes, etc., dans la guerre. Donc pour avoir une bonne vision, c'était quand même utile d'aller jeter un œil ou au moins que les dissidents existent. Parce que finalement, ces gens-là parlaient de choses qui étaient discutées sur les réseaux sociaux et donc dont les grands médias étaient eux-mêmes obligés de parler d'une certaine manière. Ce qui venait quand même matiner le discours et faisait en sorte que le discours des médias mainstream était audible. Là, on est dans une situation où il y a une espèce d'unanimisme, je vous dis, dans l'anti-trumpisme entre les grands médias et les médias dissidents, ce qui fait qu'il n'y a aucune contradiction qui est portée, en fait. Les gens qui portent une relative contradiction, c'est vaguement des gens comme moi, ou des gens vraiment, vraiment pro-Trump, mais du coup qui ne sont peut-être pas forcément objectifs. Et du coup, c'est difficile de s'estimer bien renseigné, d'autant plus que en Ukraine, il y avait des journalistes, il y a des journalistes depuis le début. En Iran, à part Slavoj Ghazi, qui est forcément limité dans ce qu'il dit, je pense, parce qu'il est à Téhéran et que le régime sait qu'il y est, on a très peu d'informations de l'intérieur, malgré tout. Donc c'est difficile de savoir exactement où ça en est. Donc on n'est sans doute pas au bout des surprises, mais encore une fois, voilà. Réfléchissez, prenez votre temps, et bien sûr, ne vous laissez pas faire. À bientôt.